Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101, précisément midi, une minute. Préparez-vous à vous habiller chaudement parce qu'on annonce moins 48 avec le refroidissement
éolien. Ça se peut,
éolien.
Ça?
Apparemment que oui.
Avec le refroidissement éolien, Jeff, par exemple, c'est tout nu face au vent que tu le ressens.
Ça va
c'est
être
un peu encourageant.
Ça va être frette en tabarouette, anti-péché, comme dirait l'autre. Moins 48!
C'est comme hier, quand tu respirais, puis que ça venait de serrer les voies respiratoires.
Ouf! J'aime mieux pas
c'est
penser
l'hiver.
À quand je vais me lever demain matin. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si mon char va partir, sûrement mon minivan part tout le temps. Donc, à l'antenne de Boulevard 101, l'émission On en jase, 418-971-101 pour interagir avec nous. Quand dites-nous donc, êtes-vous prêts pour un moins 48, vous autres? Ça vous tente-tu?
Interdiction de chauffer au bois, tout rentre en même temps. On fait des farces. Non, mais on connaît ça, le grand froid, là.
Ouais,
on ne fera pas semblant.
En passant, 8 clos à 14h cet après-midi, justement, sur cette réglementation-là. On va expliquer à nouveau aux médias. J'avais assisté l'année dernière. On va expliquer à nouveau aux médias pourquoi on le fait. Le collègue Mathias est là. Il va nous en parler demain matin dans Marceau le matin.
Je pense que c'est bien de faire ça parce que bon, beaucoup sont contre l'interdiction, mais le fait de l'expliquer ne va pas faire en sorte qu'il y aura adhésion complète et majoritaire. Mais je pense au moins que ça fait
en
avancer
effet,
les choses quand on ne fait pas juste interdire, mais qu'on explique pourquoi.
La communication va toujours aider, c'est certain. C'est ça, Kevin mentionne que le vent d'en face en moins 48, c'est frette quand même. Mets une cagoule, Kevin, comme Max Larouche. Steve, maintenant, t'as vu ça où? C'est dans le Journal de Québec qu'on parle de moins 48 avec le facteur éolien. Vous pouvez également nous suivre via la web radio sur boulevard.fm. Les meilleurs moments se retrouvent là immédiatement après l'émission. Les meilleurs moments de ce matin, notamment notre entrevue avec Pierre Poilievre qui s'est fait ce matin aux alentours de 9h20 dans Marceau le matin. Notre application Boulevard 101, meilleure façon de nous écouter, que vous êtes n'importe où au Québec, au Canada, voire même aux États-Unis. Donc, vous allez pouvoir nous écouter via notre application twitch.tv/BLVD/FM. Venez nous rejoindre. Donc, on est disponible également à cet endroit. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce qu'il y a plein de moments que vous pouvez aller réécouter sur YouTube également, notamment nos podcasts. Le podcast de la série des grands événements avec Denis Gravel s'y retrouve en entier. Antonine Iaccarini, Pascal Sevé, ça va bien?
Ça va bien.
Très bien.
Ouh, excellent. Hey, il y a de l'action pas à peu près. Donald Trump qui est passé au sommet de Davos. Il a craché sur à peu près tout ce qui existe dans le monde, puis il a dit à quel point lui était bon, il était beau, puis que on n'a jamais vu une croissance économique comme ça mondiale.
Ah, mondial.
Mondial.
Ça me fait penser à Vladimir Poutine qui disait que c'est le plus bel homme au monde selon son propre palmarès. Si vous pensez que c'est une farce, c'est vrai.
Non,
il y a des prises de parole parfois qui peuvent surprendre.
Ouais. Il y a de ces gens qui mentent et qui se croient.
Oui.
Pas mal ça.
Je crois. Je pense qu'ils se croient.
Je pense qu'ils pensent pas qu'ils mentent.
Non, du tout.
Non.
C'est fou, hein? Le cerveau, c'est fascinant. Là. Pour vrai, tout ça, là, c'est fascinant des fois, certaines personnalités.
Exactement.
Avec des traits. Il a quand même dit que le Canada existe grâce aux États-Unis. Alors, on devrait dire « Ave, États-Unis », on devrait quand même se prosterner devant eux, je pense.
Vraiment. C'est vraiment eux qui nous donnent
ça. La tête. Hey.
Non, ça n'a aucun sens. Évidemment, on va parler avec Antonine. On va en parler également avec Lambert Drainville aux alentours de 13h. Et Pierre Graff, analyste économique, va être avec nous aussi aux alentours de 12h35. On va reprendre la portion économique là, du sommet de Davos. Une enseignante qui nous dit « On a marché de l'école Hollande au musée des Beaux-Arts avec nos élèves. » Félicitations.
Et ont-ils tous survécu?
Ah oui, ils ont tous survécu. Ah ouais, on fonce dans le tas. Il y en a pas de problème.
Il y en a juste un de mort.
Un petit doigt gelé. On réchauffe ça après ça en se frottant les mains.
Non, mais ces températures-là, on est capable de passer à travers. Là. Ouais. Mais pour vrai, à un moment donné, ça crée des problèmes. Il y a des autos qui ne démarrent pas, effectivement. Il y a 2 ans, il y a eu une vague de froid terrible. Il faisait comme moins 45. Là.
Oui.
Moi, j'avais eu un train à prendre de Montréal. Mon train est parti à... il était censé partir à 18h30 de Montréal. Il est arrivé à Québec à 3h du matin. J'ai débarqué à Drummond. J'ai débarqué. J'étais plus capable.
T'étais plus capable. C'est quoi? C'était des arrêts constants?
Oui, c'est que les portes... c'est-à-dire, les portes finissaient par plus être capables de fermer. Mettons, ils arrêtaient à Saint-Hyacinthe de débarquer
du monde. Un tramway, ça va être quoi?
Mais pour vrai, la question on se pose, c'est ça pose des défis, le froid, pour nos voitures, comme ça en pose pour le transport
collectif.
On a juste
à voir le REM.
Le REM, ces temps-ci, c'est sûr. Puis finalement, aussi les aiguillages. Donc, les rails, tu sais, ça des fois, ça revire de bord.
C'était trop froid.
Fait que là, il fallait tous les faire à la main. Puis il y avait des messieurs du CN qui mettaient de l'eau chaude. J'ai débarqué à Drummond, mon chum est venu me chercher à minuit.
Impossible.
À Drummond. Donc, je suis contente de ne pas avoir de train à prendre d'ici la semaine prochaine.
T'as entièrement raison. Pascal Cévé, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité en attendant le caucus?
Bien, c'est sûr que là, écoute, je suis en train de jaser de service militaire obligatoire avec notre ami Max Larouche, puis on s'est fait couper le segment par François Legault qui a fait un point de presse. Alors, on sort de ce point de presse-là en ce moment. C'était avant le Conseil des ministres. Et il a jasé. Bon, il se prononce sur un peu tout. Il n'y a pas vraiment un point de départ dans son point de presse. Là. C'était vraiment le premier depuis son annonce de départ il y a une semaine. Bon, il tenait à prendre la parole pour parler un peu de tout ce qui se passait dans le monde. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire ressortir de ça. Commentaire sur Davos, commentaire sur certains sujets. Mais honnêtement, on se demandait un petit peu plus si c'était pas un point de presse pour avoir un scrum, donc des questions de journalistes.
Oui, exactement.
Parce que c'est sûr qu'ils sont mitraillés de ce type de questions-là depuis
l'annonce. Oui, Conseil des ministres depuis ce matin. Donc d'ailleurs, on va en revenir dans le caucus. On va parler de ceci parce que plein de ministres qui sont passés, puis on leur a posé la question. Allez-vous vous présenter à la chefferie? On a des extraits pour vous.
Immense nouvelle au niveau des policiers ce matin, parce que les autorités ont procédé à deux frappes. C'est des frappes majeures qui ont été faites de façon simultanée, pour pas qu'on s'appelle, puis qu'on se dise « ouais, ça se passe en ce moment ». Non, non, on fait ça en même temps. Et on arrête des proches du trafiquant Al Boivin, des individus qui opèrent sous l'égide des Hells Angels. Ils ont été arrêtés. Donc, c'est un ratissage très, très large d'arrestation. C'est ce qu'on dit dans le Journal de Québec. Et ça s'est fait du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à la grande région de Montréal. Alors, phase, on dit finale, de cette enquête-là qui était très vaste et qui a commencé il y a plusieurs mois par l'escouade régionale mixte Saguenay. Je vous rappelle qu'en mai dernier, il y a eu perquisition. Et c'est dans le cadre de la même enquête. On avait saisi 340 000 $, 13 armes longue, une arme de poing, 4 grammes de cocaïne, une arme à impulsion électrique et une souris verte. Non, mais pour vrai, on pouvait continuer. Ouais. Il y avait même des répulsifs à ours. On était prêts pour cette guerre là, qu'on voit dans le marché du stupéfiant illégal. L'opération, comme je vous disais, c'est pour mettre fin aux activités criminelles, mais c'est surtout pour empêcher de continuer de répondre aux ordres d'Al Boivin, d'arrêter les membres principaux. Alors, trafiquant qui est dissocié du Blood Family Mafia, du BFM, dans la dernière année. Et là, il opère sous un autre groupe. On l'appelle le North Savage Gang. Encore une fois, un nom à pas plaire à belle-mère. Hein?
Non, exactement. On va jaser tout ça avec Roger Ferland aux alentours de 12h50.
Bernard Drainville songe à se lancer. On jasait ensemble. On avait analysé rapidement en fin d'émission lundi le genre de publication qu'avait fait Bernard Drainville qui disait pas qu'il allait se lancer, mais nous, selon ce qu'on lisait, on pensait qu'il s'en allait vers là. Là, ça s'avance un petit peu plus, là, qu'il s'en va peut-être à se lancer. Du moins, il songe sérieusement à ça. Éric Girard a renoncé. Donc, le ministre de l'Environnement, c'est Bernard Drainville en ce moment, puis il a donné feu vert en fait pour probablement commencer à jaser de sa candidature. Et c'est aussi un feu vert que sa famille lui a donné pour se porter candidat à la chefferie de la CAQ. Ses enfants sont plus vieux. Alors, il a décidé que ce serait peut-être son tour et sa chance à suivre pour celui qui sera élu. Dossier réglé pour une fois et pour toutes, en fait. Visite de Mark Carney à Québec, c'est ce qu'on dit. Alors, des entrepreneurs manufacturiers qui voient la prochaine visite de Mark Carney à Québec comme une occasion en or pour régler les dossiers des travailleurs étrangers temporaires.
On passe au caucus!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini voulait vraiment comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1, disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Caucus avec Antonin Iaccarini. Il y a énormément de dossiers à parler. La course à la CAQ, Pierre Poilievre qui est en entrevue avec nous. Le PLQ qui va devenir un grand partisan du troisième lien.
Ça y est, la clarté, on en reparle.
Et voilà, course à la CAQ, Antonine. Qu'est-ce qu'on retient, le Catherine Champagne-Jourdain qui dit « Moi, je suis du bord à Christine Fréchette ». Qu'est-ce que tu retiens de tout ça?
Bien, d'abord, ça réfléchit. Ça réfléchit fort. Oui. Tout le monde réfléchit.
Veux-tu que je te fasse entendre une réflexion?
Ah oui, donc.
Je te fais entendre Christine Fréchette.
Alors, je chemine dans ma réflexion. Et ce qui m'aide à cheminer, c'est que je parle, j'échange avec mes collègues, je prends le pouls de la situation, comment eux voient les choses, quelle est leur lecture à eux, qu'est-ce qu'ils voudraient voir être mis de l'avant dans le cadre de cette transition, qui est d'impact pour le Québec, qui est aussi en plus de notre parti. Donc, je chemine dans cette réflexion-là et je vous ferai connaître prochainement le fruit de mes réflexions. Je ne me suis pas donné de date précise. Là, on va connaître, par exemple, les règles demain, mais je ne suis pas
arrêtée.
Hey, attends une minute, tu n'as pas fini la réflexion. Simon Jolin Barrette.
Je souhaite vous informer que ma décision n'est pas prise, mais que je suis en sérieuse réflexion. Pour moi, la CAQ, c'est d'avoir une économie forte pour protéger le portefeuille des Québécois.
Il est en réflexion, mais il y a déjà
c'est
son
un
programme.
Nationalisme exact. Qui est décomplexé et qui est affirmé. C'est d'avoir des régions au centre de nos décisions et des régions qui sont fortes et qui pourront prendre des décisions par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Et c'est aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est de protéger notre langue, notre culture, notre identité.
Je songe à me lancer. Je songe à me lancer.
C'est Bernard! Il songe!
Parce que je pense que...
Lui, il réfléchit pas, il songe.
Ils ont plusieurs.
Oui, on a besoin d'une force nationaliste, une force politique nationaliste.
Oui, il a son programme, lui aussi.
Et économique au Québec. Puis je pense que...
Par les grands respects.
Ça nous prend un parti qui est près des régions, qui pense aux familles, qui agit pour les familles. Puis qui gouverne pour le monde ordinaire, qui gouverne pour les gens.
Il pense à sa famille aussi.
Puis dans la situation qu'on vit actuellement avec toutes les turbulences, toute l'instabilité, je pense qu'il faut miser sur l'expérience.
Oh! Comme sa maman, on mise sur l'expérience. Et le dernier, non le moindre, ton préféré, Jean-François Simard.
Écoutez, la précipitation, c'est toujours une mauvaise conseillère. Alors, on va connaître les règlements demain, et puis on continue à réfléchir.
On continue à réfléchir.
À bientôt. Aussi. Je trouve qu'il y a la même voix que Bernard Drinville, mais ouais. Deux notes au-dessus.
Exactement. Donc là, moi, Antonine, il faut que tu me corriges. Là. J'ai jamais entendu des gens se présenter devant les médias et répéter aussi souvent qu'ils réfléchissent.
Hey, c'est une grande réflexion collective.
Mais sérieusement, ceux qui... C'est le mot que j'ajoute parce qu'ils disent sérieusement ceux qui veulent vraiment y aller. J'ai l'impression que je réfléchis sérieusement. Ouais. Donc, ma décision est prise, mais j'annonce pas en direct.
Est-ce que Jean-François Simard a dit sérieusement?
Non.
Non.
Ah-ha!
Oh!
Ça peut-tu être notre cue?
Peut-être qu'il revoit, mais on l'écoute de Jean-François Simard parce que c'est la vitesse.
Écoutez, la précipitation.
La précipitation.
C'est toujours une mauvaise conseillère.
La précipitation, c'est toujours une mauvaise conseillère ou pas avoir d'appui.
Bernard avait l'air. Avait l'air fébrile, stressé.
Il avait l'air
essoufflé
aussi.
Oui, ça, je sais pas c'est quoi son cardio, mais on dirait qu'il assume pas. Les rumeurs autrefois qui disaient que bon, il se présentait à la CAQ puis il avait choisi son parti parce qu'il avait loin dans son radar peut-être l'envie d'être premier ministre. C'était-tu des rumeurs fondées selon toi?
Moi, j'ai pas tant entendu ça. Je sais que les gens prenaient pour acquis qu'il allait vouloir être à la chefferie, mais moi, pas du tout. La semaine passée, quand M. Legault a démissionné, tu te rappelles, Jeff?
Oui.
Je te disais, moi, je pense pas que M. Drinville va y aller. Parce que moi, j'avais entendu dire que c'était convenu, qu'il allait se présenter, mais qu'il ne ferait plus de course à la chefferie. Visiblement, il y a juste les fous qui ne changent pas.
En effet.
Et il a bien le droit de le faire. J'ai mis sur mon Instagram tantôt les différents rebondissements. Là, donc, Mme Fréchette qui réfléchit, M. Jean Barrette qui réfléchit, M. Girard qui n'y va pas, finalement, qui ne se présentera pas à la course à la direction. Et j'ai mis Bernard Drinville aussi. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs, je dois le dire. Des commentaires épidermiques. Là.
Par rapport à Bernard Drinville et sa possible candidature.
Oui, parce que moi, quand, par exemple, je fais une publication sur un ou l'autre ministre, député, peu importe de quel parti, toujours recevoir des deux, des commentaires négatifs, des commentaires positifs, des fois très neutres, des fois les gens, ça les intéresse pas, ils s'en fichent.
Moi, je te fais un compliment, c'est en ton honneur parce que tu parles de politique de façon réfléchie, t'es pas canné dans un coin, puis là, t'as juste tes hardcore fans qui te regardent.
Et je lis tous les commentaires.
Ça donne le pouls un peu sur
J'aime
la perception.
J'aime ça prendre le pouls, sachant que c'est pas toujours scientifique, mais quand même. Et je dois dire que les commentaires étaient pas très positifs pour M. Drinville. Ce n'est pas un échantillon nécessairement qui est scientifique, mais quand même, en plus de ça qu'on constate qu'il n'y a pas encore d'appui public pour M. Drinville, je m'interroge, et c'est très tôt, là. C'est très, très tôt, là. Puis, comme disait Jean-François Simard, il faut pas aller trop vite, là. Puis c'est quand... tout ça peut changer, mais c'est sûr que comme première impression, en début de pré-course, je trouve qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'appétit pour M. Drinville. Ça peut changer. Je suis prête à être convaincue du contraire dans les prochains jours.
Ça m'amène à te parler d'une question éthique. Les ministres qui se prononcent déjà, donc, tu sais, bon, là, j'en ai parlé, Kateri Champagne-Jourdain aujourd'hui, pour Christine Fréchette. Mais tu sais, si on regarde Christine Fréchette, on a interviewé Mathieu Lacombe qui a dit « Moi, je suis du bord à Christine Fréchette ». Si on regarde du côté de Simon Jolin Barrette...
Il y a Jonathan Julien.
Exactement, ministre des Transports, Jonathan Julien, qui est sorti samedi sans que personne y demande sur ses médias sociaux en disant « Moi, je suis Simon Jolin Barrette ».
Sans que personne y demande, je mettrai des petits guillemets là-dessus parce que souvent... Il y a des petits jeux de coulisses. Mais en tout cas,
tu as plus travaillé en coulisses que moi, donc je te crois à 100%. Mais, parce que je n'ai jamais travaillé en coulisses en passant. Mais C'est-tu éthique de le faire? Parce qu'ils ont un portefeuille, ils ont cheminé des dossiers, à avancer des dossiers selon les orientations qui ont été données par le premier ministre qui est encore actuel,
absolument,
François Legault. Pour moi, il y a un manque d'éthique là-dedans. On devrait se garder un droit de réserve, comme Marc Tanguay l'avait fait comme chef par intérim et Monsef Déragé comme leader parlementaire.
Bon, c'est ça. Dans le fond, quand tu es dans l'opposition, parce que souvent les courses à la chefferie, tu n'es pas au pouvoir, hein, tu es dans l'opposition. Mm-hmm. Là, on en a eu deux en deux ans de gouvernement en place. C'est un peu bizarre parce que ça crée toutes sortes de situations un peu étranges. Dans l'opposition, les officiers du parti, c'est leader parlementaire, whip, chef, vont rester neutres pendant la course. Et si d'entre eux veut s'impliquer dans la course à la direction, il va laisser son poste. Les ministres, c'est pas pareil parce que ils jouent pas nécessairement un rôle auprès de leur des autres députés. Parce que quand tu es dans l'opposition et que tu es leader parlementaire, par exemple, tu vas prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on priorise comme dossier parlementaire, qui pose des questions en période de questions. Donc, tu peux avantager un candidat ou un autre. Les ministres autour de la table du Conseil des ministres, bien, c'est sûr qu'ils sont sous surveillance. Parce que si, par exemple, tu te mets à faire plein d'annonces, tu sors plein de stocks là, dans tes dossiers. Là. Mettons, toi, tu es ministre des Transports.
Bon, oui.
Puis là, tu te dis, moi, je vais aller annoncer des autoroutes dans Bordua. C'est le comté de Simon-Jolin Barrette. J'appuie Simon-Jolin Barrette.
C'est ça.
Puis là, je vais l'inviter à mes cocktails de constructeurs de routes puis d'infrastructures et compagnie. Puis là, je vais aider mon candidat grâce à mon portefeuille de ministre. Là, ça, c'est sûr que tu peux pas faire ça.
Oui, puis je vais te prendre un exemple qui risque d'arriver, selon moi, qui va être concret. Et on en a parlé énormément, Pascal, à notre émission, le dossier de l'immigration. Le dossier du PEC.
Ouais.
Donc, ici, il y a 13 000 résidents dans la ville de Québec qui sont menacés de devoir quitter parce
que...
Dont plein qui travaillent, dont plein qui ont acheté des maisons, qui ont un conjoint, qui ont une famille, qui sont établis.
Qui ont des enfants qui vont à l'école.
Exactement. Mm-hmm. Tout ça. Donc, ça va être une question où les candidats devront se positionner.
Oui. Ça, c'est un enjeu qui est un peu différent. C'est moins l'enjeu éthique. Ça, c'est l'enjeu politique parce qu'il y a des dossiers sur lesquels les candidats vont devoir se positionner. On peut penser au troisième lien.
Bien sûr!
C'est un gros dossier pour la CAQ. À Montréal, ça pogne pas le troisième lien. À Québec, ça pogne. Comment tu te positionnes?
Oui, je reviens avec ton exemple du troisième lien. Simon-Jolin Barrette, qui est appuyé par Jonathan Julien, dit « Moi, c'est à l'est que je le vois. » Finalement, Jonathan Julien sort un mois plus tard en disant « Hey, savez-vous quoi? On a refait nos devoirs. » Puis ça va être à l'est. Mais pendant ça, là, Christine Fréchette, elle a dit « On garde le corridor central. »
Ou a dit ben, « Je l'abandonne. » Donc, ils vont prendre des positions, puis c'est vrai que ça peut créer des situations avec les ministres. Par exemple, Jean-François Roberge, dans le dossier de l'immigration, effectivement, en ce moment, ça brasse avec le programme Expérience québécoise, dit le PEC, parce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé des processus d'immigration, et là, les règles changent. Une clause grand-père, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça veut dire que ceux qui sont déjà ici, qui ont déjà commencé leur processus, ne sont pas affectés par les changements au programme. Quand ils ont fait la loi sur la laïcité, les enseignants qui étaient déjà en poste, qui portaient un signe religieux, n'avaient pas à enlever leur signe religieux, c'est les nouveaux enseignants qui devaient suivre la loi. Donc, c'est ça une clause grand-père et ça permet une plus grande stabilité parce que les politiques en immigration ont beaucoup changé d'une année à l'autre. Donc, ceci étant dit, comment Christine Fréchette, Simon-Jolin Barrette, je m'en doute comment il va se positionner, il a été ministre de l'immigration puis il n'avait pas mis de clause grand-père quand il a fait des changements au PEC. Fait que
okay, ça devrait... ça.
Et Jean-François Roberge, en toute logique, moi, je le vois appuyer un Simon-Jolin Barrette.
Moi aussi.
Ils sont très similaires dans leur positionnement. Donc, si une Christine Fréchette, dis-moi, puis je ne sais pas ce qu'elle va dire, là, on jase. Si Christine Fréchette, dis-moi, je mettrais une clause grand-père, ben là, t'as Simon-Jolin Barrette qui dit, ben pas moi, puis t'as Jean-François Roberge qui est un peu poigné entre les deux. Et lui, de toute façon, sa position actuelle, ce serait la même en théorie que Simon-Jolin Barrette. Donc là, il a l'air
d'utiliser
son dossier de ministre pour appuyer son
mais
candidat.
Là, encore pire, il appuie Simon-Jolin Barrette, mais la pression devient trop forte de la part des municipalités puis des chambres de commerce, puis là, il recule.
Puis là, il y a un malaise avec son candidat. Donc, ça va créer toutes sortes de situations. Heureusement, ça ne durera pas éternellement. Mm-hmm. On attend les règles de la course à la chefferie demain ou vendredi. Les choses vont se clarifier. Et en avril, on devra avoir un nouveau chef à la CAQ et donc un nouveau ou une nouvelle première ministre du Québec. Mais ça va être vraiment compliqué. Et on le disait tantôt, François Legault est en point de presse, là, il est sorti. Puis, tu sais, quand on l'a vu apparaître à la télé, on est plusieurs à la station. En fait, il y a plusieurs personnes qui disaient, mais pourquoi il fait des points de presse? Pourquoi? De quoi il va parler? Dans le fond, M. Legault, il essaie de montrer qu'on continue quand même de gérer le Québec.
Oui, mais oui.
Mais la réalité, ça sera pas super, la productivité.
On va être au ralenti de façon assez anémique, comme on l'a été cet été. Je termine la chronique CAQ et course à la chefferie avec, selon moi, une personne très lucide, Éric Girard, ministre des Finances.
De voie de passage par laquelle je pourrais gagner, tout simplement. Participer, c'est bien. Gagner, c'est encore mieux.
Participer, c'est bien. Gagner, c'est encore mieux. Ben, félicitations, M. Girard, vous avez décidé de pas participer.
Je le trouve honnête.
Ben oui.
Tu sais, Geneviève Guilbeault, elle a annoncé en fin de semaine qu'elle ne se représenterait pas. Elle n'a pas dit « j'ai réfléchi, je ne me présenterai pas à la course ». Elle a noyé ça un peu dans quelque chose de plus global. Dans son
même départ. Principe pour Sonia Lebel.
Même affaire. Éric Girard, il dit « j'ai pas d'appui ».
Ouais.
Maintenant qu'il a su qu'il devait laisser son poste de ministre des Finances, je pense qu'il s'est dit « moi, je veux boucler la boucle hey, ». Un ministre des Finances qui t'offre 8 ans, là, c'est... il n'y en a pas eu des tonnes
en
histoire récente politique. Il y a eu cet article de Bloomberg la semaine passée qui nous disait qu'il y a une inquiétude, disons, au niveau de l'instabilité politique au Québec. Les agences de notation nous regardent. Je pense que M. Girard fait la chose responsable. J'espère que peu importe qui gagnera la course à la chefferie, il sera renommé ministre des Finances. Et ça m'amène à me dire que je pense qu'il devrait rester neutre dans la course pour ça.
Donc, il fait bien, un, de ne pas se présenter, puis deux, de ne pas appuyer un candidat.
Ben, je ne sais pas s'il va appuyer un candidat ou pas.
Mais il ferait bien.
Moi, je pense qu'il devrait, parce que ça serait notre gage de stabilité. Parce que là, s'il si appuie, il n'appuiera pas Simon Jolin Barrette, OK? Mettons qu'il appuie Christine Fréchette. Après ça, c'est comme si tu achetais la garantie de te faire renommer par cette candidature-là, mais si Simon Jolin Barrette gagne, ben, il ne va pas te nommer ministre des Finances, tu ne l'as pas appuyé. Donc, moi, je pense qu'il devrait s'entendre avec tous les candidats de dire, écoutez, moi, je pense qu'on devrait miser sur de la stabilité pour la question des finances. Je vais rester neutre. Et je vous invite à me garder en poste.
Mais je ne sais pas ce que tu en penses, parce que j'ai l'impression d'entendre des auditeurs dire « OK, bien là, si les postes de ministres s'en vont à ceux qui appuient un candidat ou un autre, il me semble qu'il y a un problème. »
Bien, ça a toujours été, par contre. C'est dans le sens que y a des c'est le choix du premier ministre. Donc, il peut avoir des affinités personnelles à travers ça. Et c'est pas toujours les meilleures compétences qui sont aux meilleurs endroits. Là, c'est toujours la vérité.
Ben, oui.
On en a vu de toutes sortes. Et dans ce cas-ci, je pense que pour un poste aussi névralgique en ce moment que celui du ministre des Finances, ce serait peut-être une bonne idée d'en faire une zone non partisane, non touchée par la course à la direction. Je ne sais pas si les gens vont m'écouter, mais moi, c'est vraiment ce que je ferais à leur place.
Ben, en effet, puis ça me fait penser à la course à la chefferie pas si lointaine du Parti libéral du Canada où Mélanie Joly, Dominique Leblanc, François-Philippe Champagne, qui étaient impliqués très fortement dans les négociations avec les Américains, ont décidé de ne pas se présenter pour garder leur poste en disant que c'est notre responsabilité.
Par contre, ils ont appuyé Mark Carney.
T'as raison.
Mais c'était sûr qu'il allait gagner. Fait qu'à un moment donné, ça,
c'est
plus
clair. Oui, à un moment donné, exactement. Là, même Christophe Freeland qui s'est présenté aidait Mark Carney dans le débat en français. il mettait des mots dans la bouche pour dire « essaye de mieux paraître en français, ça va nous aider à gagner l'élection. » C'est ça, exactement. Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard dans l'émission On en jase. Antonine, rapidement, je te fais entendre la réponse que Pierre Poilievre nous a donnée ce matin dans Marceau le matin lorsqu'on lui a dit « Est-ce que Donald Trump va trop loin et justement met en péril la souveraineté du Canada quand il dit « Le Canada, il existe parce que les États-Unis sont là puis il y a le marché américain. » Voici sa réponse.
Oui, j'ai pas entendu ces mots, donc parce que je suis en train de faire l'entrevue, mais je pense qu'on doit aussi voir au-delà des trois premières années parce que M. Trump ne sera plus là d'ici 2029. Et on doit travailler avec les Américains de bonne foi qui sont au Congrès, au Sénat, les gouverneurs, les entreprises pour rebâtir et réparer le dommage fait pendant les années Trump parce que c'est une relation qui date des centaines d'années.
Jamais je vais mettre les Américains tous dans le même bateau, mais Donald Trump a la main longue à l'heure actuelle. J'en parlais ce matin, je me disais, moi, je suis étonné de voir un Marc Rubio suivre Donald Trump comme un petit chien de poche.
C'est gênant, même.
Ce que Mike Pence avait pas fait dans le premier mandat, et je pense que c'est la différence entre le premier et le deuxième mandat.
Tellement.
Dans le premier mandat, tu avais un Mike Pence qui disait « Non, 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 là, tu vas trop loin. Regarde, on suit ça. »
D'ailleurs, il l'a payé cher, parce que quand il y a eu l'insurrection le 6 janvier...
Les gens voulaient l'assassiner,
ouais,
je me rappelle.
Puis Donald disait « Ouais, je comprends. »
C'est un traître à la nation.
Les gens. Moi, c'est ça. Effectivement, moi, j'ai trouvé que M. Poilievre, sur la question de Mark Carney, ben, premièrement, il n'a pas critiqué beaucoup le discours de Mark Carney et son positionnement à Davos cette semaine sur le fond des choses. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même... Ça doit y faire mal, là, parce qu'il trouve toujours quelque chose à dire. Puis c'est une des faiblesses, je trouve, de politicien, M. Poilievre, c'est qu'il y a de la misère, des fois, à dire les bons coups. Il est très, très partisan. Donc, il s'est gardé une gêne là-dessus. L'autre élément, c'est que sur Trump, on se demande toujours de quoi aurait l'air un Canada avec un premier ministre Poilievre face à un Trump. Hein. C'est vraiment comme un mystère, parce qu'on a l'impression qu'il serait peut-être plus sympathique à M. Trump.
Ouais.
Je l'ai trouvé quand même assez ferme, sauf que son faux fuyant disait, tu sais, il ne sera plus là dans 3 ans. Hey, 3 ans, c'est long. T'sais, lui-même, il dit, il faut que tout aille vite, il faut que vite, faut qu'on se dépêche.
Ouais, il faut qu'on construise des pipelines, il faut ci, il faut ça. Mais wow, c'est juste 3 ans. Mais ce 3 ans-là va être une éternité en politique et va changer énormément de choses au niveau de la géopolitique. Là.
Absolument pas. Puis, sinon, ce que ça nous dit cette semaine, surtout avec le discours de Carney, qui a été salué quand même par pas mal de monde, là, puis pas nécessairement des cheerleaders de Mike Carney, c'est à quel point c'est difficile pour M. Poilievre de tirer son épingle du jeu en ce moment face à ce nouvel adversaire-là. Il doit s'ennuyer de Justin Trudeau, là. Je pense que le monde ne s'ennuie pas beaucoup. Ouais.
Ben, d'ailleurs,
c'était son meilleur ennemi.
Ben oui. D'ailleurs, il avait essayé de le ramener dans l'actualité là, en parlant des problèmes à la GRC. Oui, c'est ça, exactement. Je termine avec le Parti libéral du Québec. On s'en va vers un couronnement de Charles Milliard.
Ben voyons donc.
Je te le dis.
Mario,
c'est ma prédiction. Ben Mario peut y aller,
Mario.
Mais Mario gagnera pas. Ah. Comme Jean-François Simard peut y aller, mais Jean-François Simard gagnera pas. Ceci dit, sans surprise, Charles Milliard l'avait dit lors de la dernière course à la chefferie, je l'avais entendu au débat à Québec, lui, il est pour un troisième lien. C'est un gars de Chaudière-Appalaches, puis Gilles Loulier arrêtait pas de nous le dire.
C'est un gars d'économie aussi.
Oui, Gilles Loulier arrêtait pas de le dire. Moi, je veux Charles Milliard à la tête du Parti libéral parce qu'on va avoir enfin un autre parti qui va prendre position pour le troisième lien. Marc Tanguay, lorsqu'il était en entrevue avec nous, c'était toujours...
Ah, il prenait des faux fuyants.
Ni chaud, ni froid. Il n'a jamais répondu.
La CAQ gère mal ça, c'est son tout croche. Mais sur le fond, t'en veux-tu ou t'en veux pas?
En plein ça. Alors là, avec Charles Milliard à sa tête, est-ce que le Parti libéral du Québec, j'ai deux questions pour toi, devient pro-troisième lien à l'Est? Et est-ce que ça va être suffisant pour faire en sorte qu'ils vont réussir à enlever des comtés au PQ et au PCQ?
Moi, je pense que ça en fait une alternative plus intéressante pour la région de Québec, oui. Parce que les gens à Québec sont quand même majoritairement pour le troisième lien. Ils ne sont plus capables d'entendre parler du dossier à cause du tango, du changement d'idée de la CAQ et de la politique, la surpolitique qu'on a faite entourant le dossier. Sous Dominique Anglade, le Parti libéral critiquait beaucoup le projet de troisième lien sur le fond des choses. C'est trop cher, la pollution, etc. C'était surprenant parce que c'est le gouvernement Couillard qui avait parti le bureau de projet là, pour le troisième lien. Donc, c'était un changement de position. Et après, quand Dominique Anglade est parti, quand t'es chef intérimaire comme Marc Tanguay, je le comprends d'être un peu poigné parce que tu peux pas prendre une position très forte. Ta dernière chef était contre, ton chef d'avant était pour. Là, il va avoir, tu sais, il y a une course à la chefferie, il va avoir des débats sur ces enjeux-là. Comme chef intérimaire, c'est tannant, ce genre de dossier-là. C'est la même chose un peu sur les dossiers de laïcité de langue française. Ils ne pouvaient pas prendre des positions très affirmées. Donc, dans ce temps-là, au lieu d'être sur le fond des choses, tu es sur la forme, tu dis que la CAQ est brouillon, on ne les croit plus, et ils dépensent de l'argent, ils sont irresponsables. OK, mais t'en veux-tu un ou t'en veux pas un? Troisième lien.
En effet.
Là, on va avoir enfin une position qui est claire. C'est oui pour Charles Milliard. Et en plus, il jette un peu un pavé dans la mort parce qu'il dit « je le veux là » à part de ça. Il le veut à l'Est. J'ai hâte de voir. Parce que moi, qui ne suis pas opposée au troisième lien du tout, mais qui commence à trouver que dans toutes les priorités financières qu'on a, ça ne fait pas partie de mon top 3 des priorités de ce qu'on devrait faire avec plein de milliards de dollars en ce moment alors qu'on a des hôpitaux qui tombent à terre et qu'il y a des besoins très importants ailleurs. Le problème, ça a toujours été on le met où? Puis en termes d'ingénierie, ça marche comment? Là? Parce que parler à des ingénieurs, là, ça marche pas. T'as beau faire des belles affiches avec des bitubes sur des beaux PowerPoint en conférence de presse, c'est compliqué. À l'Est, c'est des grandes distances. Après ça, il y a eu le projet sur l'île d'Orléans. Hey, bonne chance de mettre un troisième lien sur l'île d'Orléans. De toute façon, il est trop tard, là, le pont est commencé.
Exactement.
Donc, il y a toujours eu des problématiques de techniques avec le troisième lien qui font que moi, je n'y ai jamais cru. Il n'y a pas un projet qui nous a été présenté que je me dis « ouais, ça marche ».
Ça marche.
Ça répond aux objectifs, ça répond à nos attentes financièrement et en matière technique. Donc là, je suis contente qu'au moins Charles Millard commence à se commettre un peu plus clairement là-dessus. J'ai hâte de savoir plus clairement aussi la position du PQ.
En effet. Parce qu'eux aussi sont comme des couleuvres.
C'est un peu floumou, là.
Oui, oui. Quand on parle de ça à Pascal Paradis, c'est toujours « le projet n'est pas clair, le projet n'est pas clair. » C'est comme Bruno Marchand, c'est comme plein d'autres gens. Alors, si Charles Millard peut au moins clarifier, on va être gagnant, je pense, politiquement dans la région de Québec.
En 2026, il va falloir savoir c'est quoi la vraie position de tout le monde.
Bien, voyons. C'est un pont au-dessus de la piscine, de la promenade Samuel de Champlain.
J'aime ça pas en parler.
Ça va être beau, ça va être beau.
Puis, les gens n'ont pas beaucoup de tolérance maintenant pour le blabla, là.
Non.
On vous croit plus.
Exactement. Antonine Iaccarini, c'est toujours un bonheur et un plaisir de faire le caucus avec toi. On se parle demain à midi.
À demain.
À demain. Après la pause, Pierre Graff, analyste économique, vient nous jaser du sommet du Forum économique à Davos et notamment des paroles de Donald Trump très dures envers le Canada aujourd'hui. On va avoir Mathias Turcotte en direct d'un point de presse sur le logement qui va nous appeler également. Et on va avoir Roger Ferland qui va nous parler des arrestations. Une grosse demi-heure qui s'en vient sur les zones de Boulevard 101 à l'émission d'En Jase. Restez avec nous.